La première.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent de Hausset.
Nous sommes le 10 mars 1302 à Florence. C'est au cours de son deuxième procès instruit par le magistrat Cante de Gabrielli d'Agubbio que Dante Alighieri est condamné au bûcher au motif de concussion, c'est-à-dire malversation, malversation dans l'exercice d'une fonction publique, de gain illicite et d'insoumission au pape. Depuis quelques années, l'auteur de la Divine Comédie s'oppose aux tentatives d'ingérence du pouvoir papal, donc de Rome, sur les communes de Toscane. Tous ses biens sont confisqués et finalement, il est banni de la ville. La pensée, la vision du monde de celui que l'on considère comme l'un des plus grands poètes italiens, sinon le plus grand, n'a pourtant pas fini de rayonner sur ses contemporains et d'influencer les générations futures. De Borges à Umberto Eco, de Shakespeare à Chateaubriand, d'Erasme à Rimbaud, ainsi Honoré de Balzac qui le cite dans de nombreux romans, dans La femme de 30 ans par exemple. Le visage glacé de Madame d'Aiglemont était une de ses poésies terribles, une de ses faces répandues par milliers dans la Divine Comédie de Dante Alighieri. Alors, qui était ce monument de la pensée, pour le dire un peu pompeusement? En quoi est-il une transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance? Est-il le précurseur de l'humanisme? Qu'a-t-il à nous dire aujourd'hui? Mettons nos modestes pas dans ce gigantesque de Dante.
La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Si on pouvait perdre tous les livres et sauver un livre, ce livre serait la Divine Comédie. Je suis sûr de ne pas me tromper parce que je n'ai pas de raison personnelle des idola specus, comme dirait Bacon, pour aimer Dante. C'est-à-dire que j'admire Dante du point de vue esthétique parce que je ne partage pas son éthique, ni sa religion, ni ce que pour moi est une mythologie.
Voilà Borges ici qui s'exprime à propos de Dante. Et pour évoquer ce parcours hors norme, c'est Daniel Salvatore Schiffer qui est des nôtres. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Professeur de philosophie de l'art à l'école supérieure de l'Académie royale des beaux-arts de Liège. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule La constellation de Dante, le chant du sublime, qui est paru aux éditions Éric Bonny. Alors on va faire une petite bio pour démarrer. Dante degli Alighieri, dit Dante, donc né en 1265 à Florence, entre la mi-mai et la mi-juin, c'est ce que l'on pense en tous les cas. Il meurt 56 ans plus tard, le 14 septembre 1321, donc ça fait 700 ans à Ravenne. Alors qu'est-ce qu'on sait de son milieu, de son enfance ?
Alors on sait très peu de choses. On sait très peu de choses de Dante, mais il y a une chose fondamentale en revanche que l'on sait, c'est qu'à 9 ans, à l'âge de 9 ans, en se promenant à Florence le long du fleuve qui est l'Arno, il voit sur un pont une magnifique jeune fille, qui elle aussi a 9 ans. Mmh. Mais Dante, qui est un être raffiné, élégant et surtout très discret, n'ose pas l'aborder. Cette fille, c'est cette jeune femme, c'est Beatrice di Folcoli, qui va devenir la Béatrice de la Divine Comédie. Donc là, Dante a un coup de foudre, il en tombe fou amoureux, mais il ne lui dit pas. Il ne parle même pas avec elle. Ça reste un amour idéalisé, un amour platonique, mais qui va le hanter toute sa vie. Et donc, il va lui consacrer d'abord un premier livre, qui est la Vita Nuova, dont on parle peu, mais qui est un magnifique recueil de poèmes aussi, sauf que celui-là, ses poèmes sont écrits en prose. Et puis, surtout, la Divine Comédie, qui lui est écrit en vers, ce livre. Et donc, c'est un hommage à cette magnifique jeune femme florentine toscane, qui est Béatrice, Beatrice en italien. Et d'ailleurs, le mot Béatrice, j'en profite parce que c'est une chose qu'on sait peu en italien. D'ailleurs, ça vient du latin Beatrix, Beata. Le sourire Béa, ça veut dire heureux, le bienheureux. Et Béatrice, qui vient du latin Béatrix, veut dire qui rend heureux. Mmh. Et donc, elle rend heureux Dante, cet amour platonique qui n'a jamais été concrétisé, qui n'est pas charnel, qui est purement platonicien. Et lui dédie cette Divine Comédie, puisque dans la Divine Comédie, ça commence par l'enfer, donc Dante est avec Virgile. Le purgatoire avec Virgile, et puis le paradis avec Béatrice. C'est-à-dire qu'il a la vision du paradis avec Béatrice qui le rend tellement heureux que cette vision de l'amour, l'amour sublimé, le titre de mon livre, Le Chant du Sublime, fait que c'est un amour quasi divin. C'est ce que Dante appelle d'ailleurs l'Empyrée, qui est le stade suprême du paradis, encore au-dessus du paradis. Et donc, oui, ça, c'est un des rares éléments véritablement biographiques que l'on sait avec certitude de Dante. On sait où il est né, à Florence. On sait où il est mort, en exil à Ravenne. On sait qu'il a rencontré, sans vraiment lui parler, cette jeune femme, Béatrice. On sait aussi qu'il avait une femme, qui s'appelle Gemma, la gemme, le bijou, qui l'évoque à une reprise au moins dans la Divine Comédie, mais sinon sur la vie de Dante, on sait très peu de choses.
Et probablement de nombreux enfants avec...
Oui, il a eu plusieurs enfants, et je crois qu'il a eu il a eu 4 enfants.
Alors dans quel monde Dante vit-il? Est-ce que l'on a déjà basculé dans ce que l'on appellera la Renaissance italienne?
On commence. En fait, la Renaissance se caractérise de façon importante, principale, c'est sa caractéristique majeure, par ce qu'on appelle le passage du théocentrisme à l'anthropocentrisme. C'est-à-dire le théocentrisme, comme son nom l'indique, en grec, théos, Dieu, centrisme, le centre. Le Moyen-Âge est une période historique qui va à peu près de l'an 500 après Jésus-Christ à l'an 1500, 1000 ans donc, 10 siècles, théocentrique. C'est-à-dire que Dieu est au centre du monde. Il est la clé de voûte de tout l'édifice conceptuel, mental, intellectuel, philosophique, artistique. C'est une des raisons pour lesquelles l'art médiéval est à 80%, sinon 90 ou 90% consacré à l'art religieux. Et puis, la Renaissance fait basculer le monde occidental du théocentrisme à l'anthropocentrisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le grec anthropos veut dire l'homme, c'est-à-dire l'homme au centre du monde. Et l'on passe d'une vision du monde, de l'univers, où Dieu est au centre, à une vision du monde où l'homme est au centre. Et ça se voit notamment dans ce fameux dessin de Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve, où l'on voit un homme au centre d'un cercle qui est censé représenter la Terre, qui est lui-même plus ou moins au centre d'un carré qui est censé représenter l'univers. C'est ça le passage du Moyen-Âge à la Renaissance, c'est la Renaissance de l'homme. Moins Dieu devient important, plus l'homme devient important, selon le principe de vase communicant, en relation avec les canons esthétiques grecs, avant la naissance du monothéisme, à l'époque où la Grèce et la Rome antique étaient d'ailleurs polythéistes. Et donc, Dante, il est à la charnière. Il arrive à la fin du Moyen-Âge et déjà au début de la Renaissance avec la notion d'humanisme. La preuve, c'est que les personnages centraux de la Divine Comédie, eh bien, ce sont des hommes et des femmes. C'est Dante accompagné de Virgile et puis Béatrice, c'est l'amour platonique, mais c'est quand même l'amour d'une femme, avec ce qu'elle a de charnel, même s'il est sublimé.
Virgile, qui est ce poète latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, il y a un paradoxe quand même que vous soulevez, Daniel Salvatore Schiffer, c'est que donc il est le représentant d'un premier humanisme, mais dans un poème malgré tout sacré.
Oui, c'est un poème sacré. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, bien sûr que c'est une apologie, une ode à l'amour, fût-il platonique ou charnel. Mais c'est quand même un poème sacré parce que l'ultime vision de cet amour se fait à travers l'image de Dieu. D'ailleurs, peu de gens le savent, et ça il faut le dire, la Divine Comédie n'est pas le titre original. Le titre original, c'est la vision. C'est le premier titre que Dante avait donné à son fameux poème, c'était La Visione, la vision. C'est comme cela que s'intitule au départ le livre de Dante, la Divine Comédie. Puis l'ami, meilleur ami de Dante, qui est Pétrarque, a inventé, c'est lui qui le premier, emploie le mot d'humanisme. Mais surtout c'est Boccace, qui est l'auteur du Décameron, qui a suggéré à Dante d'appeler ce texte la Divine Comédie. Dante l'a d'abord appelé la Vision, puis l'a appelé la Comédie, et puis c'est Boccace qui lui a dit, qui lui a suggéré de l'intituler la Divine Comédie, et c'est le titre qui est resté dans la postérité.
Alors on considère aussi Dante comme le père de la langue italienne. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir avec vous, Daniel Salvatore Schiffer.
Quand le poète peint l'enfer, il peint sa vie. Sa vie, ombre qui fuit de spectres poursuivis, forêt mystérieuse où ses pas effrayés s'égarent à tâtons hors des chemins frayés. Noir voyage obstrué de rencontres difformes, spirale aux bords douteux, aux profondeurs énormes, dont les cercles hideux vont toujours plus avant, dans une ombre où se meut l'enfer vague et vivant. Cette rampe se perd dans la brume indécise.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Après une lecture de Dante, c'est un poème de Victor Hugo, des notes de Franz Liszt. C'est le romantisme ici qui va également beaucoup être influencé par Dante. On y reviendra avec vous tout à l'heure, Daniel Salvatore Schiffer. Alors, Dante, c'est donc un Florentin engagé dans la vie politique de sa ville, qui n'hésite pas, on le disait, à critiquer le pouvoir temporel de l'Église, donc de Rome. Il faut souligner qu'à cette époque, bien sûr, l'Italie n'est pas un pays unifié. On est en présence de plusieurs États, des cités-États qui parlent des dialogues divers. Et Dante, mais il n'est pas le seul, va jouer un rôle majeur dans la naissance de la langue, la naissance de l'italien. De quelle manière ?
Voilà. Jusqu'à Dante, c'est-à-dire jusqu'au XIIIe siècle, eh bien, on parlait le latin. On écrivait en tout cas en latin. Les érudits, les poètes, majoritairement écrivaient en latin. Et c'est Dante qui, le premier, écrit un texte, la Divine Comédie, directement en italien, ou plutôt en dialecte toscan. Ouais. Il y avait à l'époque trois grands poètes, c'est ce qu'on appelle la couronne. Mmh. Ces trois grands poètes, ce sont les trois grands poètes italiens qui ont fait passer la littérature et la poésie, pas seulement en Italie, mais dans le monde ensuite entier, en tout cas en Europe, en Occident, on fait passer la littérature et la poésie du latin à l'italien. Le premier, c'est Dante, avec la Divine Comédie. Ensuite, Pétrarque, avec Il Canzoniere, qui se traduit en français par le chansonnier. Et puis, Boccace, avec le Décameron. Ce sont ces trois grands poètes, mais dont Dante est le premier, qui ont fait passer le latin à l'italien. Ainsi, Dante, effectivement, est le créateur, sur le plan littéraire, poétique, de la langue italienne, en tout cas du toscan, qui va être l'ancêtre, la matrice de l'italien moderne, tel que nous le connaissons maintenant. En cela, il est très moderne. Il invente pratiquement en littérature l'italien.
Et d'ailleurs, les grands créateurs de son époque vont lui vouer une forme une admiration.
Oui, c'est bien sûr, on l'appelait le sommo poeta, c'est-à-dire le poète du sommet, le poète maximal, si vous voulez. C'est ainsi que ses contemporains l'appelaient. On parle de Boccace, on parle de Pétrarque, on pourrait parler d'autres grands poètes italiens, mais Dante, c'est le premier poète italien et c'est le sommo poeta. C'est ainsi qu'on le définit tout au long du Moyen-Âge
et
de la Renaissance.
Et est-ce que son rôle politique est aussi commenté à son époque ? Est-ce qu'il suscite l'admiration ou parfois, j'imagine, l'opposition ?
Alors ça, c'est une question très importante parce que je crois que c'est même le point le plus moderne de Dante. En fait, Dante donc vit à Florence. Florence est une principauté basée essentiellement sur l'économie. C'est une cité marchande, comme on dit, où la politique et les affaires de la société sont primordiales. On ne veut pas que le pouvoir religieux s'immisce dans les affaires temporelles, dans les affaires de l'économie, de la société ou de la politique. Or, il y a un pape, donc les états pontificaux, qui regarde, qui lorgne, qui a des visées territoriales et de conquête sur ce qui est à l'époque la Toscane. Mais pas seulement la Toscane, l'Ombrie, la Lombardie, toute l'Italie. Et donc, Dante, bien qu'il croit en Dieu, en atteste la Divine Comédie, ne veut pas que le pape, le Vatican, les états pontificaux interfèrent dans sa ville, interfèrent dans les choses publiques, dans la vie sociale et politique. En cela, il est l'inventeur, le précurseur de ce qui va devenir chez nous la laïcité, notamment au siècle des Lumières, et puis bien sûr avec la loi en France, par exemple, de 1905, où la laïcité naît officiellement. Eh bien, Dante, sans employer le mot, est déjà un des théoriciens de la laïcité, où il veut séparer l'Église et l'État, la sphère temporelle, c'est-à-dire la politique, et la sphère intemporelle, la religion. C'est pour cela qu'il est condamné à mort. Lors de deux procès, on prend comme prétexte, comme alibi, vous l'avez dit dans votre introduction, la concussion, le conflit d'intérêts, dirions-nous aujourd'hui. Mais en fait, ça c'est une supercherie du pape qui détestait Dante, parce que justement Dante s'opposait à l'interférence, à l'ingérence du religieux dans le politique, qu'il est condamné à mort et au bûcher, raison pour laquelle il doit fuir la Toscane, Florence. Il erre pendant des années de couvent en couvent, de manière anonyme, pour ne pas se faire reconnaître et donc être capturé et d'être emmené sur le bûcher. Et donc, il va finir sa vie en exil à Ravenne.
Et si on parle de conflit d'intérêts, de détournement de fonds publics, c'est parce qu'il a une fonction publique, il est magistrat.
Oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier que Dante a écrit un texte qui s'appelle « De monarchia », c'est-à-dire « De la monarchie ». C'est un texte qui est le précurseur du fameux prince de Machiavel. Deux siècles après, Machiavel va écrire le prince, mais les rudiments les premiers éléments du prince de Machiavel se trouvent dans le De Monarchia de Dante, qui est un texte écrit en latin. Il a aussi écrit De Vulgari Eloquentia, toujours en latin. Ça veut dire, c'est sur la langue, c'est un texte de linguistique, de sémiotique, dirons aujourd'hui, de la langue vulgaire, vulgaire au sens de non-latin. Mm-hmm. Et De Vita Nuova, la Vita Nuova et la Divine Comédie, qui sont eux des textes poétiques et littéraires et non pas des textes politiques, eux sont écrits en italien. Mais Dante est un homme politique d'une extrême importance à Florence en son temps.
Alors, le chant du sublime, Daniel Salvatore Schiffer, c'est donc le sous-titre de votre ouvrage. Pour comprendre en quoi l'œuvre de Dante relève du sublime, il nous faut revenir à la signification de ce terme. Le premier dans l'histoire des idées qui parle de cette notion du sublime, c'est au IIe siècle de notre ère, en pleine antiquité gréco-romaine, un dénommé Longin. Alors, qui est-il et qu'est-ce qu'il nous dit?
Alors, Longin, dans l'antiquité romaine, on l'appelle Longinus. On n'est pas certain de son existence, certains en doutent, et donc on peut aussi l'appeler le pseudo-Longin. Moi, je préfère l'appeler Longin parce que je crois qu'il a vraiment existé. Et il a écrit au IIe siècle après Jésus-Christ, c'est un néoplatonicien, donc il appartient à la culture grecque, mais il vit politiquement dans une société romaine, et donc il vit dans ce qu'on appelle maintenant le Proche ou le Moyen-Orient, et il écrit un texte qu'il appelle du sublime, où il donne les premiers éléments, la première théorie du sublime. Vous pouvez retourner toutes les bibliothèques du monde, vous ne trouverez pas le mot sublime avant Longin. On parle de la beauté, chez Platon, par exemple, chez Aristote, mais pas le mot sublime. Le mot sublime est un terme, un concept forgé de toutes pièces par Longin, 2 siècles après Jésus-Christ. Mais Longin n'est pas un philosophe, ce n'est pas non plus un esthète, c'est ce qu'on appelle un rhéteur. Qu'est-ce que c'est un rhéteur? Ben, c'est quelqu'un qui fait de la rhétorique, c'est-à-dire c'est l'ancêtre de la linguistique. Lui, il s'occupe du langage, de la langue. Et qu'est-ce que c'est pour lui le sublime? C'est ce qui est à la limite de la langue, c'est-à-dire ce qui est tellement grand qu'il n'y a pas de mots pour dire la chose. C'est l'ineffable, l'inexprimable, l'indicible. Le mot sublime, si vous divisez le mot, il est fait en 2 suffixes, sub, limes. Sub, en latin, veut dire en dessous. Subalterne, par exemple, contrairement à sup, supérieur, qui veut dire au-dessus. Donc sub veut dire en dessous. Et lim vient du latin limes, qui veut dire la limite. Donc le sublime, c'est ce qui est sous la limite. C'est-à-dire qu'au-delà de cette limite, eh bien, on ne sait pas dire la chose parce que le mot n'existe pas. C'est ça le sublime au départ, ça n'a rien à voir avec la beauté. C'est un ordre de grandeur, c'est un terme purement linguistique. Ensuite, et on va l'appliquer à l'art et à l'esthétique en y ajoutant la notion de beauté. Ça se voit chez Burke au XVIIIe siècle, qui est un philosophe anglais, et puis surtout chez Emmanuel Kant, dans sa critique de la faculté de juger. Est sublime ce qui est tellement grand qu'il n'y a pas de mots pour dire la chose, d'où l'art. L'art peut dire la chose, mais pas le langage, pas le vocabulaire qui est trop limité. C'est ça le sublime. Et donc, avec Dante, nous sommes dans ce champ du sublime, parce qu'il est au-delà de toute limite, aussi bien dans le beau et dans le bien, le paradis, que dans le laid ou dans l'horreur, l'enfer.
Et ce que parvient à faire Dante, c'est d'utiliser une langue qui est comprise par tous, au fond.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la langue vulgaire. Au départ, vulgaire n'a pas du tout une connotation péjorative comme il a aujourd'hui. Vulgaire, vulgus, veut dire qui appartient au peuple. C'est le langage populaire, par opposition ou par différence, avec le langage des érudits ou des gens cultivés, qui à l'époque était le latin et avant cela le grec. Donc c'est ça la langue vulgaire.
Alors vous évoquez également Léonard de Vinci, à qui vous avez consacré un ouvrage, Daniel Salvatore Schiffer, et à qui on a consacré une émission avec vous, qu'on retrouve d'ailleurs dans la collection 1000 jours dans l'histoire. Alors, il écrit de Vinci: ainsi, le caractère divin de la peinture fait que l'esprit du peintre se transforme en une image de l'esprit de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire exactement et quel est le lien avec Dante?
Alors, Léonard de Vinci, donc, c'est un génie universel. Il a abordé toutes les sphères de la connaissance, que ce soit l'architecture, la mathématique, bien sûr la médecine, l'anatomie, le dessin, la peinture, mais au-dessus, dans un ordre hiérarchique, au-dessus de tout, il place la peinture. Par exemple, il place tellement la peinture tellement haut qu'il ne peint qu'à la main droite, alors qu'il fait tout le reste à la main gauche, y compris dessiner. Léonard de Vinci était gaucher, mais il peint la main droite, il est ambidextre, parce qu'il pense que le peintre est le reflet sur terre de Dieu. Dieu a créé le monde, l'artiste et le peintre singulièrement créent son monde. Il crée un monde. En ça, il a un pouvoir divin, quasi démiurgique. Et donc, c'est pour cela que Léonard de Vinci, dans son traité de la peinture, qui est par ailleurs le premier traité où un peintre traite de son propre art, c'est-à-dire qu'il théorise son art, ce qu'on n'avait jamais fait avant, les philosophes l'avaient fait, mais qu'un artiste, qu'un peintre abandonne son pinceau, sa palette, pour théoriser, pour conceptualiser son art, le premier c'est Léonard de Vinci, nous sommes à la fin du 15e, début 16e siècle, dans le traité de la peinture, il y en a eu un avant lui qui s'appelle Cennini, qui a écrit le livre de l'art, mais que tout le monde a oublié. Et donc, si vous voulez, pour Léonard de Vinci, le peintre, l'art, la peinture, c'est le reflet de Dieu, dans la mesure où l'artiste a la puissance de créer. Il crée par l'inspiration, une espèce d'inspiration divine qui lui vient d'en haut. Eh bien, c'est là le lien avec Dante, c'est que Dante, en fait, la Divine Comédie, c'est un cheminement, c'est un voyage initiatique dans l'au-delà, c'est-à-dire dans les arcanes de l'au-delà, qui sont aussi bien le paradis, mais aussi que l'enfer ou le purgatoire. Alors, l'enfer, dans l'ordre, l'enfer, le purgatoire, le paradis, avec cette excroissance qui est l'empirée, c'est un chemin initiatique qui est dans l'au-delà, c'est-à-dire dans les arcanes de ce que j'appelle le sublime, avec ce que ça peut avoir à la fois de divin ou de diabolique.
Alors, ce purgatoire, justement, c'est une notion très très intéressante. On va voir comment Dante l'utilise avec vous, Daniel Salvatore Schiffer.
Joyce, lorsqu'il écrivait Finnegan's Wake, et lorsqu'il traduisait Finnegan's Wake en italien, il disait pour se traduire lui-même et ce qu'il y avait de plus hardi, c'est-à-dire Finnegan's Wake, eh bien, il prenait comme modèle la technique de déformation qui était celle de Padre Dante. C'était, il le considérait comme son père, mais au sens véritable, c'est-à-dire génétique. Et là, je crois que, en effet, si on lit Dante avec les yeux de Joyce, on reconnaît, on voit directement cette modernité.
Un jour dans l'histoire, sur la première. Laurent de Hausset.
Voilà, la femme de lettres française, poétesse, hein, Jacqueline Risset, vous l'évoquez.